Fidèle à ma réputation, vous êtes toujours à l'heure. On reconnaît au rire, on voit que c'est un public initié. Ah, ça va, je suis un petit peu bas du coup. Hein? Bon, je vais rester debout, allez. J'ai fait ça récemment. Ah oui, ça va, c'est une bonne idée. Parce que récemment, comme ça, j'avais une rencontre avec le public au festival d'Aix, l'autre grand festival de la région. Et c'était pareil, il y avait une rencontre, mais il y avait des beaux fauteuils qui étaient installés, mais on s'enfonçait comme ça, quasiment sous terre, et personne ne voyait rien. Donc on a fait toute la rencontre debout, et c'était beaucoup mieux. Voilà, alors j'ai une bonne nouvelle d'abord pour commencer. Cette présentation va être beaucoup plus courte que celle de l'année dernière. Tout simplement parce que l'année dernière c'était autour de la personne de Pierre Boulez. Et ben oui, comme vous le savez, qui nous a quittés depuis. Et puis sur Pierre, je pouvais être intarissable. Parce que c'était personnel et parce que je ne suis pas conférencier, moi. Quand je parle de ce que je fais, dans mon travail quotidien, etc. Et là, avec Pierre, il y avait une flopée d'anecdotes et de vécu, de choses partagées, de transmissions, de tout ce qu'il m'avait apporté. Voilà, et... Bon, je vous cache pas, vous vous en doutez, puisque vous tous qui me connaissez un peu, que ça a été une grande perte pour moi que Pierre nous quitte, mais même si on s'y attendait et qu'on avait eu le temps de se dire adieu, voilà, puisqu'il avait eu quand même une période de maladie avant de nous quitter. Alors, d'une certaine manière, il va de nouveau être présent, Pierre, dans ce festival. Pierre Boulez, parce que y a quand même, on sera trois ex ou encore présents à l'intercontemporain avec Pierre-Laurent Aymard, que j'ai rencontré d'ailleurs dans mes années à l'intercontemporain. Il était encore là quand je suis arrivé, on a encore passé, je pense, 2-3 ans en commun à l'ensemble intercontemporain. Et Pierre-Laurent a passé beaucoup plus de temps que moi à l'intercontemporain, il est rentré quand il avait 18 ans. Et il y est resté, je crois, on pourra lui demander, mais quelque chose comme entre 15 et 20 ans. Enfin, et voilà, et il était très proche, très très proche de Pierre. Sophie Chérier, qui va revenir, puisqu'elle était venue une année, il y a pas mal de temps, et qui est encore, elle, voilà, c'est la grande fidèle de la cause de l'intercontemporain, qui est depuis de très nombreuses années, qui est encore, et tant mieux pour l'intercontemporain, et tant mieux pour la création, puisque c'est une musicienne extraordinaire et une très bonne amie. Et donc on va partager tous les trois ensemble, trois musiciens sur cinq de l'équipe du Pierrot Lunaire qui sera jouée vendredi soir, on l'a tous les trois beaucoup joué ensemble en tournée il y a bien longtemps, quand on était tous les trois encore à l'intercontemporain. Et alors, je fais un petit peu dans le désordre, puisque ça vient comme ça, puisque je parle du Pierrot, puisque je parle de Pierre-Laurent Aymard, de Sophie Chérier et de l'intercontemporain, etc. Il y aura justement cette conférence de Pierre-Laurent sur le Pierrot Lunaire, qui sera, que je ne me trompe pas de jour, jeudi matin à 11h. Alors ça vraiment, c'est ce qu'il ne faut pas rater cette semaine. Si vous voulez, vous n'êtes pas au concert, machin, etc. Je vais me faire taper dessus après, là. Non. Mais pourquoi ? Parce que Pierre-Laurent, et je vais parler un petit peu de lui de manière générale, mais je vais commencer par ça, et pour moi, dans les personnes qui savent mettre le verbe sur la musique, qui est un petit peu notre thématique d'ailleurs, mais donc ils savent mettre en mots, qui savent mettre des mots sur ce que la musique raconte, et pas seulement sur la musique qui a un lien avec le conte, avec machin, mais n'importe quelle musique, la musique la plus abstraite, et vous mettez ça dans les mains de Pierre-Laurent et il vous révèle ça, à vous tous qui n'avez jamais fait une note de solfège, enfin, ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait une note de solfège, tout d'un coup vous avez l'impression de connaître, de comprendre Courtax, Zwelinck et je ne sais qui encore, et tout devient limpide. Pour moi, vraiment au 20e, 21e siècle, il y a deux personnes qui font ça avec génie, et avec génie dans le sens de mettre à disposition de chacun la plus profonde intelligence d'une œuvre. C'était Leonard Bernstein dans les années 70-80 avec ses fameux concerts pour les enfants, qui sont des choses extraordinaires. Je l'évoque, je crois, à la fin du petit texte qu'on a mis dans le dépliant. Et Pierre-Laurent Aimard. J'ai pu assister comme ça à Paris à des conférences sur des œuvres, etc., qu'il faisait, ou des concerts-présentations, parce qu'il arrive justement à mélanger les deux de manière tellement naturelle qu'on ne sait plus si c'est une conférence, un concert. Voilà, c'est tout ce qu'on en vient. C'est extraordinaire. Voilà, donc ça, je vous le recommande chaleureusement, et notamment sur Pierre Lunaire. Ceux d'entre vous qui ne sont pas germanophones, ce sera quand même intéressant d'avoir deux, trois explications comme ça sur le rapport du texte avec la musique et la manière dont Schoenberg construit tout ça. Donc ça, c'est jeudi 11h, rendez-vous incontournable. Voilà. Alors, maintenant, pour revenir un petit peu au début de la genèse du programme de cette année, donc, en fait, tout est parti de la première œuvre que vous allez entendre ce soir, de Pohádka de Janáček, et c'était une idée de Gesine, qui a dit, qui adore cette œuvre, et on l'adore tous, cette œuvre, cette petite œuvre, hein, qui dure une douzaine de minutes, je crois, et qui est vraiment intitulée Un conte. Et voilà. Et donc, Janáček met ça en musique, mais donc pas sans la parole. Ce n'est pas un mélodrame comme l'a pu faire Schumann plus tard, c'est-à-dire avec une musique racontée qui accompagne plus, une histoire racontée avec la musique qui accompagne. Ce n'est pas un lead, c'est juste deux instruments qui jouent et voilà, et qui illustrent cette musique. Donc de là, ce qu'on appelle la musique à programme. Et donc, Kessine a dit, mais pourquoi on ne ferait pas toute une thématique autour de ça? Et c'est vrai que c'est un domaine très intéressant, parce que finalement, quand on est musicien, on passe notre temps finalement à chercher, j'ai envie de dire, la ligne de partage entre ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire à travers le verbe, à travers les mots, s'entretenir sur des sujets, etc., de rencontres comme ça, et entre ça et ce que la musique va vous faire ressentir, penser, à influer sur votre état du moment ou sur vos réflexions, etc. Finalement, cette ligne de partage, elle est inexistante, ou alors elle est mouvante. C'est-à-dire on ne peut pas vraiment dire, je crois même que ceux qui font des recherches sur le cerveau, n'est-ce pas, sur le... j'ai les mots en allemand, le grand cerveau, le cerveau central, et l'hippocampe, bon voilà. Et ils ont effectivement, il y a ces zones, etc., mais évidemment qu'elles sont tout le temps en interaction. Et là, c'est la même chose. Nous, en fait, quand on travaille sur une œuvre et qu'on essaie de faire une interprétation qui soit à la hauteur de vos oreilles exigeantes, cher public des rencontres, finalement, on va aller dans tous ces domaines-là. On va travailler évidemment sur la sensualité, c'est-à-dire sur la production du son, et comment avec ce son on espère un peu, oui, on peut même dire vous séduire, c'est-à-dire vous séduire dans le sens écoutez-moi. Mais finalement, un conteur, ou Jean-François quand il fait ses présentations avec sa belle voix, est-ce que c'est pas aussi un petit peu la même chose? C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un qui aurait une voix trop criarde et qui dirait quelque chose de passionnant, au bout d'un moment, vous auriez plus trop envie de l'écouter. Et c'est un petit peu la même chose avec la musique. Donc il y a cet aspect-là, il y a cet aspect-là du matériau qui permet de transmettre. Mais aussi, évidemment, on travaille tout le temps sur... qu'est-ce que raconte cette œuvre? Et ça va se faire de manière assez... j'ai envie de dire multiple, la recherche là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas... Il va y avoir une recherche sur... effectivement, qu'est-ce qui se passe dans la vie du compositeur à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe historiquement à l'époque, qu'est-ce qu'un compositeur peut vouloir dire dans le contexte de l'époque culturelle, politique, etc., avec une œuvre, etc. Donc le fait de savoir tout ça, ça va influer évidemment, mais bien évidemment la part intuitive de ce qu'on a entendu, d'abord on entend une œuvre et puis soi-même on est porté, voilà, et cette part-là, eh ben, tout ça se mélange. Donc ce que je veux dire, c'est que la part entre la rhétorique, ce qu'on raconte, ce qu'on veut vous raconter avec une œuvre, qui est très important, parce que j'ai envie de dire, c'est marrant, j'avais, je fais une petite digression là. J'ai une classe à Freiburg, une classe de violoncelle, parce que j'adore enseigner, puis ça fait des années que je fais ça. Bon. Et régulièrement, donc c'est très souvent des cours particuliers, donc un à un, hein, avec les élèves. Et puis de temps en temps, on se réunit toute la classe de manière régulière. Et on aborde des sujets comme ça, là-dessus. Et trop souvent, je me rendais compte dans le cours individuel, très souvent je vais amener un petit peu des sujets dans ces moments de rencontre collective. Je vais amener des sujets où je me rends compte qui ont été récurrents dans tous ces cours individuels. Je me rends compte que j'ai... Par exemple, là récemment, on avait ce sujet, je butais sur le fait que mes élèves ne connaissent pas assez l'harmonie, ne comprennent pas assez, ne peuvent pas suffisamment comprendre les tonalités, comment est construite l'œuvre. Et inévitablement, est venue la question d'une élève, elle a dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça intuitivement? Est-ce que ce n'est même pas le plus important? Est-ce qu'il n'y a pas des musiciens qui font plus appel à leur intuition? Et c'est marrant, en vous parlant de ça à l'instant, je me souviens qu'on avait abordé ça, pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, et on avait abordé ce sujet aussi un petit peu en parlant de la musique très construite de Boulez, etc. Et bon, etc. Bon, donc c'est un sujet infini. Et ce que je répondais à cet élève, c'est que si on avait la possibilité, quand on joue Mozart, d'avoir vécu à Salzbourg fin 18e et d'avoir fait des voyages en calèche et d'avoir, etc., à ce moment-là, on pourrait faire confiance à notre intuition. Si on avait la possibilité d'avoir été dans des camps de concentration russes, peut-être qu'on pourrait jouer sur Shostakovich sans s'intéresser à la manière dont c'est construit. Mais si on n'a pas, on l'a peut-être un peu génétiquement, quelque part, tous vécu, mais on l'a, c'est quand même limité. Donc, on va être obligé d'utiliser aussi une autre manière d'entrer dans la musique. Bon, là, j'ai fait une grande digression. Hein. On va essayer de tenir un petit peu la route. Donc, pour dire que là, on avait envie cette année, avec le programme, de se saisir finalement de quelque chose qui est toujours présent et qui est toujours quotidien dans notre métier de musicien, et puis dans votre, je suis sûr, dans votre vie de mélomane passionné, et qui est justement ce rapport entre... Alors on est parti du conte, puisqu'on parlait de ce conte de Jacek, et puis on a, par extension, on est allé vers la rhétorique, le langage, la grammaire de la musique. Alors, peut-être juste à cause de la magnifique...
Les musiciens vont pas s'envoler.
J'espère qu'on va s'envoler quand on joue. Ça, c'est ce qu'on essaie toujours de faire. Mais bon, voilà. Tout en gardant le contact avec le sol. On est exigeant, hein. Ouais. Bon. Là, du coup, je sais comment par où commencer, mais je pense que je vais prendre un petit peu de manière chronologique et commencer avec le premier... programme, donc le Janáček dont je viens de parler. On continue avec le trio de Smetana à la mémoire d'un ange, donc Smetana qui avait perdu une fille et qui a voulu mettre raconter son état d'être, sa souffrance, voilà, et à travers la musique étant quand même une des possibilités, surtout pour un compositeur, d'exorciser. Hein, oui, donc il y a encore de nouveau une toute petite digression parce que sur le rapport, alors là, entre la musique et le. Non, y a, bon, vous savez qu'il y a eu les événements que l'on sait, hélas, à Nice, le 14 juillet, et il se trouve que, évidemment, totalement indépendamment de ça, on avait programmé ce soir-là avec le Quatuor Arcanto, un quatuor de Britten qui est sa toute dernière œuvre et qui est une œuvre vraiment testamentaire, une œuvre d'adieu, une œuvre qui est un lâcher-prise, j'ai envie de dire, et qui se termine avec une grande passacaille. Donc, je sais que vous êtes tous des mélomanes, mais donc passacaille, c'est l'idée, vous savez, de cette basse, en fait, qui ne termine pas, qui se répète et qui est et qui montre un petit peu les Seigneurs qu'il a composés à Venise, et on imagine comme ça, voilà, l'infini, comme ça, des flots qui sont là, qui passent, et puis de la vie aussi qui passe, voilà. Donc, évidemment, et il se trouve que le concert avait lieu juste avant le drame de Nice, et quelques jours après, était programmée la troisième suite pour violoncelle de Britten aussi, et une suite que j'ai jouée assez souvent, et qui est une suite composée de manière très complexe en fait, en tout cas, qui ne correspond pas du tout aux constructions dont on a consciemment ou inconsciemment connaissance. La forme sonate, le premier thème, le deuxième thème, le développement, et puis on revient, etc. Donc tout ça sont des choses qui sont ancrées en nous de manière consciente pour ceux qui s'y intéressent, subconsciente pour ceux qui simplement se laissent bercer par la musique. Mais donc c'est une œuvre qui est assez énigmatique quand on... Voilà, quand on ne sait pas du tout la manière dont on est construit, cette troisième suite de Britten. Et j'en ai dit un petit mot au début du concert sur cette construction. Je voulais de toute façon le faire. Et je voulais dire parce que c'est une œuvre qui, aussi, composée juste avant le dernier quatuor qu'on avait fait quelques jours avant, aussi une œuvre de la fin de la vie de Britten, et qui se base notamment sur un chant aux disparus. Et c'est quelque part, toute l'œuvre est une sorte de recherche comme ça de la musique à travers des bribes de sujets qui arrivent comme ça, de recherche de communiquer avec ces disparus, avec l'au-delà, etc. Et évidemment, jusqu'à aboutir à ce chant aux disparus où enfin on chante tout notre amour à ceux qui nous ont quittés. Voilà, donc c'était dans le contexte de ce qui s'était passé trois jours avant, évidemment, particulier, mais c'est vrai que j'ai remarqué que l'écoute des gens, alors là, de nouveau, on parle de ça, cette relation entre l'émotionnel et la compréhension du langage musical. Il y a eu une écoute ce soir-là qui était très particulière, particulièrement dense, particulièrement intense, évidemment due au contexte, mais aussi due à la possibilité pour les gens de se raccrocher, de savoir quoi écouter. Tziganes de Ravel qu'on a choisi parce que Tziganes, donc ça raconte quoi? Ça raconte alors là, de manière beaucoup plus libre, c'est pas, on ne peut pas dire du tout que c'est une musique à programme comme les Jeux de Janáček, mais c'est beaucoup plus un concept au sens large, un style, voilà, que Ravel saisit avec génie comme tout ce qu'il fait. C'est assez extraordinaire, j'avais pas écouté cette œuvre depuis très longtemps, j'ai réécouté, et ce mélange entre justement le style Tziganes, qui est quelque chose d'extrêmement impulsif, émotionnel, instrumental finalement, hein. C'est-à-dire que le violoniste Tziganes, c'est, il joue avec deux doigts quasiment, hein, mais par contre qu'il a posé pendant 15 heures par jour sur son violon pendant 30 ans, donc il réfléchit plus, il y a quelque chose d'est incroyablement intuitif, et puis il y a la construction ravelienne par-dessus, et ça donne quelque chose d'absolument éblouissant, vraiment magnifique. Et on a choisi le quatuor de Mendelssohn dans la mineure parce qu'il est basé sur un poème, un lied que Mendelssohn a composé lui-même. Est-ce vrai? Et c'est un lied qui voilà, plein d'espoir. Est-ce vrai? Est-ce vrai que tu penses à moi? Est-ce vrai que tu l'apprends? C'est ce point d'interrogation. Et ça, d'ailleurs, c'est marrant, c'est quelque chose, l'idée comme ça d'une œuvre qui est basée sur un questionnement. C'est quelque chose de très germanique, on peut dire, puisque c'est quelque chose, peu de temps avant Beethoven, très peu de temps avant, dans un de ses derniers quatuors, ses derniers quatuors où il a écrit par-dessus, à la main, « Mustas sein ». Ce qui est marrant, c'est qu'apparemment, pendant des siècles, on se dit « Ah oui, c'est un questionnement philosophique », et ça l'est sans doute aussi, évidemment, hein, c'est la destinée de l'homme, est-ce que ça doit être? Est-ce que ça doit vraiment être ce que c'est la vie, la souffrance, etc. L'existentialisme de Beethoven. Et puis apparemment, en fait, c'était sa tenancière qui en avait marre des boucans qu'il faisait avec ses instruments, avec sa musique, et qui frappait à la porte. Voilà. Et d'ailleurs, donc il y avait trois coups frappés à la porte, voilà, par la tenancière. Voilà. Donc, et là, c'est de nouveau un exemple de ce que la musique permet. Mais enfin, il y a des écrivains qui y arrivent aussi. Mais de vraiment nous faire naviguer comme ça dans une zone qui est entre le sérieux, l'existentiel, quelque chose d'actuel au profond, et puis l'anecdotique. Voilà. Mardi matin, Gilbert Ami nous fera une petite conférence sur sa sur son, sur sa pièce que nous allons jouer. Après, Aemnes Preludium. Alors là, le titre, hein, ça fait très, c'est très énigmatique. Hein. Alors, donc, en fait, au départ, il y a une petite œuvre pour violoncelle seule que Gilbert a écrit que je lui avais commandé quand j'avais commandé à 6 compositeurs des œuvres pour précéder les suites de Bach. Voilà, j'ai fait un truc comme ça qui s'appelait Bach et les pré-échos, c'est-à-dire l'écho de la musique de Bach, c'est-à-dire comment les compositeurs d'aujourd'hui réagissent à la musique de Bach, et pré-échos parce qu'on mettait ces petits échos avant la suite dont ils s'inspiraient. Voilà. Et Gilbert avait écrit ce pré-écho pour la suite en mi bémol majeur de Bach, la quatrième. Et elle est, alors, mi bémol majeur, mi bémol en allemand, c'est S. Voilà. Et là, c'est compliqué, hein, attention. Alors, et S, donc vous voyez dans le titre, S, préludium, donc prélude en mi bémol. Voilà. Et en plus, il a voulu faire un jeu de mots en allemand, s'il vous plaît. Hein, c'est risqué. Aenes, en fait, c'est le génitif, c'est ça, hein, génitif, hein, qui, voilà, qui ne tombe pas. Voilà, et donc il s'est dit que. Voilà, et il coupe le mot en deux, ça fait un prélude en mi bémol, ou alors d'un prélude, enfin voilà, c'est un jeu de mots là-dessus. Et puis voilà, et là, la pièce que vous allez entendre demain, il a fait une extension là-dessus, et pour quatre violoncelles, en travaillant sur ce matériau, sur le matériau de cette petite œuvre. Et donc il a donc ce qui s'appelle Après, ah non, c'est pas le enfin, c'est ce qui est venu après. Et donc oui, là, c'est ce qui va être intéressant, c'est qu'ils nous disent comment il a travaillé sur ce matériau et comment il l'a étendu pour faire, pour le donner à quatre violoncelles. Donc il va nous parler de ça demain matin avec quelques exemples, et vous entendrez la pièce en début de concert. Ensuite, Alexandre Tarot et moi jouerons une sonate de Brahms et des danses hongroises. Alors là, bon, c'est j'ai envie de dire, on est très librement, hein, loin de la thématique. En fait, pour tout, je vais vous faire un aveu. C'est que quand on construit comme ça un programme de festival, et notre pauvre âme qui est ici présente au premier rang sait quelque chose, les étapes sont très nombreuses jusqu'à ce qu'on arrive au produit final. Et en fait, on avait au départ mis des titres à chaque concert parce qu'on avait réussi à faire des concepts un peu plus, comment dire, souder différentes thématiques. Et il y avait notamment une soirée qui s'appelait le verbe germanique. Et en fait, ce que j'avais voulu dire avec ça, c'est que il y a quand même une manière, une construction musicale germanique qui s'est quand même, faut le dire, imposée dans l'univers de la musique classique un peu partout, qui est justement la base de cette fameuse forme sonate, où il y a une construction, une sorte de perfection. Alors ça a commencé avec Bach, et puis ça a continué évidemment avec Beethoven, avec Brahms, et Brahms en étant un des grands. Et ce qui fait que cette musique nous fascine et nous fascinera pour toujours, c'est justement, là, on est... alors, il y a une texture Brahms, évidemment, une texture instrumentale, on aime la... c'est charnu, c'est... voilà, mais il y a aussi cette force de construction. Et je me souviens que Kerboulez, on y revient, qui était passé, qui nous avait fait l'honneur de sa présence 2-3 fois au festival, en tout cas 2 fois, et je me souviens d'une fois spécifiquement où après un concert, Gesine était allée le voir, elle lui avait dit bon, peut-être pour vous c'est pas bien, il y a quand même beaucoup de romantisme et tout ça, parce que elle se disait bon, lui écoutait les choses, hein. Et il disait ben détrompez-vous, notamment la musique de chambre de Brahms m'intéresse beaucoup, voilà, parce que à cause de sa construction. Donc la construction, comme la construction d'une phrase, comme la construction d'un, voilà, et c'est un peu pour ça qu'on avait prévu. Alors là, comme vous voyez, maintenant, il y a Gilbert Ami qui est venu là-dedans, c'est compliqué à expliquer. Après, il y a tel musicien qui arrive à tel moment, c'est ça que je voulais expliquer. Tel musicien arrive plus tôt, doit repartir plus tard, et l'autre arrive plus tard, doit repartir plus tôt. Donc, ah bon, d'accord, bon, on va mettre cette heure ici. Donc, on a retiré les titres. Ah, ça, c'était plus simple. Mais, voilà. Donc, on arrive à un grand mélange. Alors, et puis, Alexandre Tarot, ben, vous le connaissez tous, parce qu'évidemment, c'est un immense... pianiste, mais voilà, c'est une très forte amitié. Et puis pour tout vous dire, pour tout vous confier, on a un projet d'enregistrement d'un disque Brahms ensemble. Voilà, on tenait à jouer cette sonate ici, parce que je la jouais pour vous, notre cher public des rencontres. Ça va nous aider à vraiment construire une interprétation et à lui trouver son âme. Voilà. Schoenberg. Alors, ce qui est intéressant dans le quatuor que vous allez entendre demain soir, c'est qu'il est, c'est une œuvre de toute jeunesse. Alors, ce n'est ni évidemment le Schoenberg dodécaphoniste, ni le néoclassique qui vient plus tard quand il est aux États-Unis, ni le grand romantisme débridé de la nuit transfigurée. Voilà, c'est vraiment de toute jeunesse, c'est presque léger comme style, et ça rappelle un petit peu ce que Bartok a fait avec son quintet avec piano. Si vous ne le connaissez pas, c'est très intéressant d'entendre. Le quintet avec piano de Bartok, qui sonne comme du Brahms en fait, ça sonne comme une œuvre supplémentaire de Brahms, et c'est avant que Bartok trouve son style, et c'est génial. C'est là qu'on voit, c'est ça qui fait plaisir, c'est que ces grands génies, même quand ils n'étaient pas encore eux-mêmes, c'est-à-dire dans leur style, etc., il y avait déjà une force de composition extraordinaire. Et je trouve ce quatuor, on a entendu un mouvement hier, journée continue. C'est très léger, c'est vraiment. Moi, je m'attendais pas. Genre, j'aurais jamais pu deviner que c'était Schoenberg, quoi. Voilà. Si j'avais pas su avant. Et la raison pour laquelle on a mis ça, c'est que Schoenberg était passionné par les contes, et il racontait à ses enfants systématiquement chaque soir un conte. Bon, vous l'avez dit, il y a beaucoup de papas qui font ça, mais lui, apparemment, c'était vraiment un rituel très important qu'il aimait beaucoup. Et mais par contre, alors là, quand même Schoenberg. Alors là, on voit déjà le caractère un peu sévère. Là. Seulement quand les enfants avaient terminé leur repas. Voilà. On ne plaisantait pas. Hein, on voit déjà le décaphoniste qui se prépare quand même. Mercredi. Alors, je dis maintenant là, entre les deux, je glisse. Le fait que tous les jours, à partir d'aujourd'hui à 17h, vous aurez la possibilité d'entendre des contes. Alors, aujourd'hui, mardi, jeudi et vendredi, dans les jardins des Cordeliers ici. Hein, et c'est Dominique Martinez qui racontera des contes qui sont autour de la musique. Donc, des contes qui, d'une manière ou d'une autre, racontent quelque chose qui a à voir avec la musique, qui est autour de la musique. Voilà, et ce sera à 17h ici, de manière très informelle, dans les jardins des Cordeliers. Et puis, mercredi 27 à 17h, alors là, sur la place du Palais, Luigi Rignanese. Et avec quelques musiciens en collaboration, il y aura un conte et de la musique mêlée à proprement parler. Voilà. Ça, ce sera mercredi à 17h, dans Forcalquier. Je reviens au programme du soir. Mercredi. Alors, une première partie de concert mercredi de Pierre-Laurent Aymard seul. Et ça va être aussi extraordinaire et passionnant. Donc, j'ai parlé de la thématique à Pierre-Laurent. Et quand j'ai parlé du conte, du langage, là, comme ça, il a tout de suite pensé à Courtag. Alors, écoutez Courtag joué par Pierre-Laurent, on ne peut pas rêver mieux. C'est tout simplement la quintessence de ce qu'on peut imaginer dans ce domaine. Courtag étant des compositeurs vivants et de sa génération, celui qui est le plus, le plus rhétorique, le plus le compositeur vraiment qui, il a vraiment une musique qui parle, qui est de l'ordre de la diction. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui l'a préoccupé toute sa vie, tout son parcours. Et donc, on aura des œuvres de lui déjà qui existent, et puis des œuvres plus récentes. Et entrecoupé avec le musicien de la Renaissance, enfin, on dit qu'il est un peu à cheval entre la Renaissance et le Baroque, Svelling. Moi, personnellement, je vais le découvrir. Et apparemment, c'est un grand précurseur, justement, de la rhétorique, de la construction musicale. Apparemment, on lui doit les premières fugues dont Bach s'est inspiré par la suite. Voilà, et cette première partie, je l'attends avec grande, grande impatience. Janáček, la sonate pour violon et piano. Parce que c'est Janáček et parce que Janáček, voilà, nous raconte toujours quelque chose. Et puis on pensait que ça ferait un bel écho au conte qu'on a entendu lundi. De nouveau Brahms avec le quatuor à cordes en la mineur. Ça, j'ai dit pourquoi, donc je passe. Alors, il y aura un petit changement de programme pour le jeudi 28 juillet. Bah oui, heureusement que vous êtes un public très souple, n'est-ce pas? Et alors là, pour avoir des détails, j'ouvre. Alors attendez, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà, j'ai reçu un email de la formidable Tamara Stefanovic qui devait nous jouer la pièce de Liszt et qui nous a proposé autre chose qui, Dixit, est encore plus dans la thématique. Voilà. Elle va nous proposer Chimanowski, une pièce de Chimanowski, voilà. D'ailleurs, qui est un compositeur extraordinaire, magnifique, que vous connaissez sans doute, et une pièce qui s'appelle Métope, au pluriel, Métope, cycle de trois pièces basées sur la mythologie grecque. Ensuite, on a une série de pièces que Sophie Chérier a proposées, et qui va faire entrer en scène Sophie Chérier, justement, et Salomé Allaire. Je suis tellement heureux qu'on ait pu avoir Salomé Allaire pour le Pierrot Lunaire, notamment, c'est là que tout est parti, parce qu'elle a vraiment elle est très réputée, notamment dans la musique justement du XXe siècle, etc., et avec le Pierrot Lunaire. Et ça me fait tellement plaisir. Quand j'ai dit à Pierre-Laurent, tiens, il y a Salomé Allaire, il me demandait qui va faire le Pierrot. Je lui ai dit, ça, parce que Pierre-Laurent est très, très exigeant, évidemment, hein. Et j'ai dit, oui, si on fait le Pierrot, je lui ai dit, ce sera Salomé Allaire. Et la réponse par email, ça a été, t'as eu Salomé Allaire, trois petits points, point d'exclamation. Voilà. Donc, on est très, très heureux. Et donc, dans ce programme du jeudi 28, il y aura certaines pièces que Sophie a proposées, et qui sont justement aussi des pièces un petit peu à programme, comme vous le voyez avec les titres. Vient une flûte invisible, soupir de Caplet. Un extrait de Scheherazade de Ravel transcrit, qui s'appelle La flûte enchantée, et un extrait du marteau sans maître. Je trouve que c'était chouette en plus d'avoir encore un petit clin d'œil à notre Pierre Boulez. Voilà, Schumann. Alors Schumann, au départ, pour tout vous dire, on avait eu l'idée d'essayer de faire un mélodrame de Schumann, parce que dans la thématique justement du conte et de la musique racontée, Schumann était idéal parce qu'il était comme ça complètement en osmose avec l'univers romantique, et l'univers romantique allemand, que ce soit la peinture, les poèmes, etc., tout se base sur justement sur ce qu'on raconte. Et là, c'est vraiment et j'ai envie de dire sur la littérature quand même. C'est le centre de gravité, c'est quand même la littérature. Et il y a après un bain de création dans le romantisme allemand autour de la littérature qui est évidemment les arts plastiques, la musique, etc. Et donc il a écrit notamment des mélodrames. On voulait en faire un, mais c'était en fait assez compliqué parce que c'est quand même très souvent c'est des œuvres très consistantes de 40 minutes, 50 minutes. C'est une histoire racontée en allemand. Alors certains d'entre vous le maîtrisent, mais pas suffisamment. Et on ne peut pas vraiment traduire parce que la musique est main dans la main, va main dans la main avec la diction, avec le verbe. Donc voilà, donc on a dû renoncer, mais on s'est dit, on veut quand même avoir du Schumann. Donc les pièces fantasy, et comme leur nom l'indique, ben voilà, les fantasy, je suis que pour clarifier les pianos, ce sont des pièces qui font appel à la fantasy, l'âme de poète du compositeur. Tchaïkovski, de nouveau une œuvre à programme, avec Souvenir de Florence, on l'avait fait il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, pour tout dire, mais déjà c'est une très belle œuvre. Et deuxièmement, c'était bien dans notre thématique, puisque voilà, c'est une musique à programme qui raconte un souvenir de Tchaïkovski. Alors, ça c'était le jeudi, et je vous rappelle que jeudi matin, vous vous souvenez, jeudi matin 11h, très bien, l'atelier sur Pierrot Lunaire de Pierre Lorrain. Vendredi. Comment ?
À la Bonne Fontaine.
Ah, ce sera à la Bonne Fontaine. Oui. Pas ici, ce sera à la Bonne Fontaine, jeudi 11h. Jeudi 11h, Bonne Fontaine à côté du piano, évidemment. Voilà. Parce qu'il y aura de nombreux exemples. Vendredi, Sophie Chérier nous propose Syrinx, évidemment, qui en quelques minutes est une belle phrase inspirée de l'histoire de Pan. Les six épigraphes antiques de Debussy, une musique toute cristalline, transparente, toute en fragilité, avec des atmosphères absolument extraordinaires. Charles Ives, alors ça, je suis tellement heureux que Tamara Stefanovic ait proposé cette pièce. D'abord, je suis fou de Charles Ives, pour moi, c'est le plus grand compositeur américain du XXe siècle. et qui gagne encore. Enfin, il est, bien sûr qu'il est connu, mais je pense qu'on peut le, ça vaut le coup de le redécouvrir. Et c'est tellement original, tellement libre, tellement. Et là, vous avez, c'est une, cette première sonate pour piano, c'est une œuvre extrêmement, justement, qui raconte beaucoup de choses et qui décrit, parfois avec humour, même des scènes de la vie quotidienne américaine. Donc on se balade, en fait, dans l'Amérique des années, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois des années 20 ou un truc comme ça. Et donc, il y a un peu de musique de saloon, un peu les bruits de la rue, un peu tout ça. Donc voilà, ça, ça c'est la musique qui s'amuse à raconter notre quotidien, finalement. Le quotidien d'un moment, une photographie musicale d'un moment et d'un lieu donné. Et enfin, notre fameux Pierre Lunaire. Alors, juste pour dire encore deux mots là-dessus, ça aussi, ça a été vraiment une des toutes premières œuvres qui nous est venue à l'esprit quand on a décidé de se lancer dans cette idée du conte, c'est que le Pierre Lunaire, au-delà d'être... du fait que c'est évidemment la voix, que c'est basé sur une histoire, la commedia dell'arte, et que ça, donc c'est une histoire très riche, très libre, très intéressante. C'est une, en plus une œuvre clé de l'histoire de la musique du XXe siècle. Mais en plus, ça fait appel à cette technique vocale extrêmement difficile pour les chanteurs, qui s'appelle le Sprechgesang. Alors bon, moi j'ai traduit par chanter-parler, je ne sais pas comment on aurait pu dire ça en français. Mais voilà, donc où le chanteur doit, alors il y a certaines parties chantées, comme avec des notes, tout à fait, des mélodies, etc. Et au milieu, comme ça, tac-tac, vous avez des notes que le chanteur doit relâcher comme si elles étaient parlées, comme si la flexion de la voix était totalement libre. Mais c'est en fait extrêmement difficile parce que c'est une. C'est à la fois, c'est, en fait, je l'ai écrit quand même les notes, ce qui est quand même pas gentil, avec des petites croix pour dire, bon, mais il ne faut pas. Que ce soit comme des notes chantées, que ce soit parlé, mais que ce soit quand même à peu près là, sur les notes que je vous donne. Donc voilà. Et il faut trouver ce naturel. Il y a très peu de chanteurs qui arrivent à trouver ce naturel. Voilà. Donc la dernière soirée, comme toujours, on respecte notre tradition de s'ouvrir vers les autres musiques, entre guillemets, et on a la chance que le clan chez Mirani soit là presque au complet. Kevin ne pouvait pas être là parce qu'il est en tournée. Mais on a Jamshid, Bijan et Mariam qui vont tous les trois d'abord en première partie de concert nous faire une demi-heure de musique et de conte autour de ce qu'ils appellent le conte persan. Voilà, donc il y aura des textes, de la musique et du chant. Et aussi, je pense que Jamshid nous fera découvrir, ça aussi c'est un autre aspect intéressant du rapport entre la parole et la musique, dans la musique persane, c'est que vous savez, pour tous ces rythmes extrêmement complexes du zarb iranien, les maîtres, les professeurs, donnent comme travail, vous avez ils scandent des syllabes comme ça, souvent, qui vont avec les rythmes. Hein, et donc, il nous fera aussi entendre ça. C'est quelque chose qui fait dans la musique indienne aussi, hein, d'ailleurs. Et ça aussi, c'est une voie intéressante au niveau cognitif. C'est que c'est le rapport entre le geste, la rythmique et la parole. Le fait que d'associer la parole, ça donne un naturel au geste, au rythme, etc. Parce qu'il y a un rythme naturel dans l'articulation, dans la parole que nous utilisons tous. Voilà. Et puis, ensuite, Raphaël Imbert viendra c'est lui qui viendra nous prendre par la main, j'ai envie de dire, Pierre-Olivier et moi, on se joindra à la troupe avec Raphaël Imbert et Raphaël nous emmènera plus dans l'idée de la direction du jazz. Et inutile de vous dire, quand j'ai dit à Raphaël, est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose justement autour de votre thématique du conte, il dit j'ai déjà 45 idées voilà. Alors que ça c'est Raphaël, c'est ça qui est extraordinaire, on lui donne d'abord, on lui donne un petit bout d'os comme ça, il en fait tout de suite quelque chose. Et je suis tellement heureux de le retrouver à six courts intervalles deux fois de suite. J'ai eu la chance là, de participer avec lui à une soirée vraiment, vraiment inoubliable au Festival d'Aix, où lui a fait un travail long cours avec des jeunes venus du pourtour méditerranéen, des jeunes talents, et Dieu sait s'il y avait du talent, avec qui venaient avec leurs instruments traditionnels de ces différents pays, Turquie, Grèce, Maroc, Algérie, Tunisie, Et il y avait, chacun apportait quelque chose, et ils ont fait un travail ensemble. Chacun disait, voilà, moi, voilà, j'apporte ce thème-là. Et puis il y en a un autre qui disait, ah ben moi, j'aimerais bien improviser avec toi là-dessus, etc. Donc il y a tout un programme qui s'est fait. Et moi, je les ai rejoints dans les derniers jours avant le concert. Et j'ai participé au concert. C'est vraiment un des souvenirs humains et musicaux les plus forts que j'ai jamais vécu. Voilà. Cette soirée. Et Raphaël, je veux dire, a cette capacité extraordinaire, justement, de fédérer comme ça, de faire venir de chacun des participants, que chacun des participants propose vraiment quelque chose, se sent très libre. Et donc, il y a quelque chose de très fort. Et donc, ça va faire très plaisir de le retrouver. Voilà, je crois que j'ai terminé pour l'exposition des programmes. Avant de voir si vous avez des questions, je regarde s'il y avait quelque chose que je voulais absolument vous dire. Non, ça c'est fait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'essentiel? Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Vous voyez, est-ce que j'ai tenu ma promesse? Il est quelle heure? Vous voyez, il est moins de quart. moins de quart, digression comprise.
Oui, pour revenir au concert de mercredi, le rapport de Copenhague et de Céline. Quel est le lien et pourquoi il y a eu ce choix entre ces deux musiciens?
Ouais. Oui, alors le lien entre Svelink et Courtal, alors en fait, dans le détail, c'est Pierre Laurent qui va nous expliquer ça au moment du concert. Et je me souviens avoir entendu, c'était quoi? C'était une soirée dédiée à Boulez, une petite digression. Une soirée dédiée à Boulez à Radio France il y a pas mal d'années. Et la présentatrice, pour essayer de parler de cette musique de Boulez qu'on ne comprenait pas toujours, et qu'on ne comprend toujours pas toujours, mais qui disait, je ne sais plus quel écrivain ou poète avait dit, bon, peu importe le chemin, quand la main qui nous emmène est sûre. Voilà, quand on sait qu'on est emmené sur... Donc c'est ce qu'elle veut dire pour parler de la musique de Boulez. Bon, d'accord, ok, on ne comprend pas tout, mais on se laisse entraîner et on va voir ce qu'on en retire, monsieur. Bon. Et là, avec Pierre Laurent, c'est la même chose. Je sais que je me réjouis déjà qu'il nous raconte. On sait que ça va être quelque chose de passionnant, ce rapport entre ce compositeur du XVIe siècle et ce compositeur du XXe siècle. Ce que je peux dire déjà, moi, avec le peu de connaissances que j'ai, comme je disais, je ne connais pas Svelink, je vais le découvrir moi-même, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais ce qui concerne Courtal, c'est qu'au-delà d'être un grand compositeur, c'est quelqu'un, il incarne et il a en lui toute l'histoire de la musique. C'est ça qui est fascinant. Et non, ça se sent dans ses compositions, ça se sent aussi dans son rôle de pédagogue. Il fait travailler beaucoup de musiciens, les plus grands. Pierre Laurent pourrait raconter des heures de ce qu'il a appris auprès de Courtal. Moi, j'ai appris auprès de Courtal travaillant moi, en l'occurrence avec sa musique, mais il donne énormément de masterclass, il donnait, bon maintenant il est un petit peu âgé et fatigué, mais il donne des masterclass des heures durant sur Beethoven, sur la et toujours en allant chercher les racines, d'où vient la musique de Beethoven, avant, voilà, et je suis certain que Pierre Laurent va nous faire trouver dans la musique de Courtal, justement, des choses qui viennent de ce feeling ou de cette manière de penser ou de cette manière de construire la musique. Voilà. Mais on va se laisser surprendre. On fera du concert. Voilà. D'autres questions ou est-ce que vous voulez retourner prendre l'air? Ah. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Bon marché.